Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. La légende de Tristan et Iseult, dont la rédaction date du Moyen-Âge, fait partie de notre patrimoine génétique. Qu'on le veuille ou non, cette légende a façonné un pan de notre culture européenne et orienté le regard que nous portons sur l'amour. L'amour, car voilà bien le sujet principal de cette histoire. Un amour qui se termine par la mort des amants et l'immortelle vigne aux branches enlacées pour l'éternité qui pousse au-dessus de leur tombe. Mais comment croire qu'une simple histoire, une légende un peu plus romanesque, ait eu une telle influence sur nous qui sommes, pensons-nous, balayés de droite à gauche par les événements de l'histoire, les modes ou encore les crises qui nous bouleversent. Cette permanence du mythe dans nos consciences et notre inconscient collectif a été le travail du docteur en littérature médiévale et enseignant de langue d'origine colombienne, Leonardo Incapié, une étude détaillée que l'on peut retrouver dans un livre publié aux éditions La Fontaine de Pierre, livre intitulé « Iseult, la vie, la mort, le renouvellement ». Leonardo Incapié nous a fait l'honneur de venir à Chartres dans nos studios en compagnie des animateurs des éditions La Fontaine de Pierre, Michel et Monique Baqueta. Je suis également en compagnie du docteur Dominique Desmichel qui anime régulièrement cette émission avec moi et d'Olivier Losti qui a reçu le 8 mars dernier dans sa librairie L'Esperluette à Chartres donc Leonardo Incapié pour une conférence. C'était le 8 mars, la journée de la femme. Leonardo Incapié, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Monique.
Bonjour
Michel.
Bonjour Simon.
Bonjour Olivier et bonjour Dominique. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la méthode. Parce que tout ce livre est bien sûr basé sur une méthode liée à la pensée jungienne. Vous abordez l'histoire de Tristan et Iseult sous un angle bien particulier, à travers la théorie des archétypes. Alors déjà, cette méthode, est-ce que c'est une méthode qui a fait ses preuves? Est-ce que c'est une méthode solide pour aborder une légende comme celle-ci?
Oui, disons que la méthode est à la base une méthode psychologique. C'est une méthode utilisée par Jung pour comprendre d'une certaine manière quel était le fonctionnement de l'âme de ses patients. Donc, il a appelé cette méthode la méthode d'amplification, qui consistait tout simplement en mettre en rapport avec les images des rêves ou des fantaisies, c'est-à-dire de production de l'imagination qu'avaient ses patients. Mettre en rapport ces images avec d'autres images qui appartiennent d'une certaine manière à notre héritage commun. Donc si dans un rêve il apparaissait par exemple un oiseau, donc c'était très important de voir si cet oiseau en quelque sorte il remplissait une fonction symbolique et du coup on le retrouvait dans des contes de fées ou on le retrouvait dans des légendes, dans des mythes.
Mais si justement on le retrouve partout, donc chez chaque être humain, dans chaque à partir d'une légende, en quoi ça peut aider le patient en lui-même?
C'est-à-dire que je trouve que la méthode de Jung était plutôt une méthode de positionnement vis-à-vis de la méthode freudienne. Bien évidemment, il avait été un disciple de Freud au tout début, que Freud a utilisé la méthode des associations libres pour comprendre les rêves. Donc il y a eu cette idée de positionnement vis-à-vis des deux méthodes différentes. Ça, c'est de mon point de vue une des raisons. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le patient faire des associations libres vis-à-vis de ces images ou oniriques, il pensait que les mettre en comparaison avec d'autres images pouvait aider à dégager un sens. À côté de ça, il y avait aussi, et un point très important, l'idée de, en quelque sorte, contourner ces productions de l'esprit humain qu'on appelle les symboles, qui sont très profondes, très délicates, et que le plus souvent résistent à une approche seulement intellectuelle. Et donc, essayer de les contourner, c'était de faire la comparaison et dégager l'essence sans trop brusquer le symbole en lui-même et ce qu'il y a de vivant à l'intérieur du symbole.
Donc, si j'ai bien compris, à la base, c'était pour aider les patients. Vous, vous l'utilisez pour décrypter un texte, une légende.
Il y a un pas
Il y a un
intermédiaire.
pas intermédiaire, c'est
Il y a un
ça.
pas intermédiaire. Parce que, disons que Jung a utilisé donc sa méthode d'amplification pour comprendre un tout petit peu l'âme humaine. C'était finalement ça. Une de ses disciples, qui s'appelle Marie-Louise Bonfrance, a essayé d'utiliser cette méthode pour l'analyse des contes et des légendes du monde entier. Donc pour moi, ça, c'est les deuxièmes pas vers une compréhension qui dépasse, disons, la compréhension clinique ou la compréhension thérapeutique. Ce qu'elle a fait finalement, c'était d'utiliser la même méthode, mais pour analyser des contes de fées principalement. Et comme les contes de fées et toute la littérature populaire est déjà en quelque sorte de la littérature. Moi, je me disais que, vu les résultats étonnants de Marie-Louise Bonfrance, pourquoi pas faire le pas suivant, qui était d'utiliser la même méthode pour analyser des œuvres littéraires telles qu'on les conçoit aujourd'hui.
Alors je me tourne vers Monique Baqueta, qui est une des animatrices avec son mari Michel Baqueta des éditions La Fontaine de Pierre, parce que dans votre catalogue, vous avez un grand nombre de livres de Marie-Louise von Franz. Quelle était son importance pour vous et pour la psychanalyse?
Elle a vraiment rendu accessible à tout le monde la possibilité d'entrer en contact avec les images primordiales, donc les archétypes de l'inconscient collectif. Parce que ce qui est important de souligner, c'est que à l'intérieur de chaque être humain, il existe certaines structures essentielles, et ces structures se retrouvent aussi sous forme d'images dans les mythes, légendes, contes. Et c'est ce rapport entre l'un et l'autre qui permet d'expliciter ce qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous rêvez d'un arbre. Bon, moi, je viens des Alpes, je rêve d'un mélèze. Ce mélèze, pour moi, a une signification, c'est-à-dire que il représente l'arbre de vie. Si cet arbre de vie vit en moi, qu'il est en plein essor au printemps avec toutes les aiguilles qui sortent et tout ça veut dire qu'il y a une dilatation et une force vitale qui est en train de se manifester en moi. Et cet arbre de vie, vous le retrouverez dans de multiples légendes ou mythes ou religions ou l'arbre de Noël ou peu importe, vous voyez. De la même manière, vous pouvez prendre un autre exemple, les animaux. Beaucoup de contes, beaucoup de légendes ont pour thème des animaux. Dans nos rêves surviennent des animaux et soit complètement menaçants. Ça veut dire qu'il y a entre vous et l'animal menaçant une tension extrême qu'il s'agit d'apprivoiser, d'amadouer, ou bien alors l'animal peut être extrêmement protecteur, ou bien même vous enseigner tout un mode de vie et de fonctionnement qui vous aide aussi au niveau des instincts. Et Marie-Louise von Franz, c'est ça qu'elle a permis de dégager d'une façon absolument magistrale.
Alors je me retourne vers Léonard de Captive. Vous parlez dans votre introduction même d'un espace géographique commun aux légendes et à certains mythes. Vous parlez de la théorie de la migration, des histoires qui viendraient finalement d'un espace indo-européen, mais qui auraient presque un berceau.
Ça, c'est une des théories, mais
C'est une théorie.
ce n'est pas la théorie jungienne.
D'accord.
J'essayais d'expliquer dans l'introduction que il y avait un phénomène que tous les chercheurs du folklore ont trouvé, et c'est le fait que les contes se répètent dans des espaces géographiques différents. C'était ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que On a vu qu'un conte apparu en Égypte 2500 avant Jésus-Christ était semblable à un conte des Amérindiens né avant la conquête espagnole. Et donc, vis-à-vis de ces problèmes, il y a eu plusieurs théories d'explication. Une des théories, c'était la possibilité d'un espace géographique commun, dans le sens où il y a une origine et donc il y a cette transmission dans cet espace. L'explication jungienne, c'est que finalement, ces structures dont Monique a parlé, elles, disons, se réactualisent, s'activent, se constellent, comme disait Jung, dans des cultures très différentes, dans des êtres humains très différents. Et donc, ces structures permettent...
Ils précèdent presque...
En quelque sorte, mais en tout cas, elles permettent des narrations semblables. Parce que finalement, nos rêves sont véhiculent le même symbole, indépendamment des cultures dans lesquelles nous sommes.
Alors, pour votre livre, donc, vous avez choisi la légende de Tristan et Iseut. On est effectivement dans une légende qui est tout à fait appropriée pour ce genre de travail, parce qu'elle est commune à déjà un grand nombre de personnes, déjà un espace géographique assez important.
En tout cas, disons que cette légende, elle est déjà collective, dans le sens où elle a été un héritage pour, en tout cas, toute l'Europe d'avant les colonisations. Toute l'Europe, au Moyen-Âge, partageait cette même histoire d'amour qui était réécrite, redite, je dirais, parce qu'il y a eu aussi une partie orale de la transmission de la légende. Et du coup, c'est une légende qui était à sa base collective.
Alors, vous avez choisi de la traiter sous un angle inédit, parce que vous avez choisi l'angle d'Iseut. Il y avait déjà eu des travaux sous l'angle de Tristan.
Il y a eu énormément de travaux sous l'angle de Tristan, beaucoup. Je pense qu'au niveau des études littéraires, la légende de Tristan et Iseut avec la légende du Graal, en tout cas en ce qui concerne la littérature médiévale, ce sont les deux thèmes, les deux sujets qui ont été les plus traités depuis l'histoire de la critique littéraire médiévale. Il y a eu quelques travaux qui mettaient Iseut au centre, disons, de l'analyse, mais... Disons que les angles étaient plutôt où ce qu'on appelle la littérature narratologique. Et donc, on essayait de voir à quel moment de la narration elle apparaissait et quels étaient le rapport avec les autres éléments de la narration. Il y a eu un autre travail, soit les années 50, de Pierre Jonin, qui essaye de voir quelles étaient les caractéristiques de personnages féminins, donc Iseut et Brangène, qui est sa suivante, et d'autres personnages féminins dans la légende, avec un point de vue beaucoup plus réaliste et quotidien vis-à-vis de comment étaient les femmes à l'époque médiévale et comment ces autres femmes, disons, qui sont nées dans la fiction, se mettaient en rapport avec la réalité médiévale. Il y a eu quelques travaux vis-à-vis d'Iseut, mais pas beaucoup.
Alors, comment vous est venu le désir de travailler sur Iseut? Est-ce que c'était justement parce que ça n'avait pas été fait avant, ou parce que vous avez déjà senti qu'il y avait là quelque chose à travailler, et quelque chose de beaucoup plus profond à découvrir?
Ben, je trouvais que c'était quand même assez étonnant qu'on parle très souvent de la légende tristanienne. C'est comme ça finalement qu'on appelle cette légende vis-à-vis des études littéraires. On parle de la légende tristanienne des études de Tristan, et on oublie Iseut. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de se dire, on va analyser pourquoi Tristan, pourquoi il fait ça, pourquoi il a fait cette autre chose, et à quel moment il est né, et comment on peut le... Mais c'est une légende à deux. Donc, pour moi, il y avait un manque. Vraiment.
Alors, donc, nous avons bien compris que nous allons aborder cette légende de Tristan et Iseut sous l'angle de l'archétype, de l'inconscient collectif. Alors, est-ce qu'on peut essayer de définir un petit peu plus ce que pourrait être l'archétype féminin, puisque c'est ça qui va nous intéresser dans cette légende?
Oui, en fait, j'essaye de l'expliquer dans mon livre. Je l'appelle plutôt le principe féminin. J'essaye d'être bien, de peser bien mes mots parce que, disons que c'est un peu complexe quand on parle de masculin et de féminin dans n'importe quel domaine, et que finalement, Jung, qui écrivait et qui a construit sa théorie au début des années, au début du XXe siècle, était aussi entouré d'une idée du masculin et du féminin qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Mais disons que ce que j'essaye de montrer avec cette idée du principe féminin, c'est que cet archétype, c'est tous les contenus, toutes les émotions, toutes les impulsions que nous percevons comme féminin à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est ce principe que Iseut représente pour moi.
Oui, c'est bien au-delà des modes ou alors d'un espace culturel qui est dans le
Exactement.
temps, quoi, on est d'accord.
Exactement. Parce que de toute façon, quand on est déjà sur le terrain de l'archétype, le plus souvent, on est sur le terrain de l'universel.
Olivier Lostis voulait intervenir.
Oui, je voulais qu'on parle aussi des aspects littéraires de votre livre, qui est tout à fait remarquable. Je pense qu'on aura le temps d'en déployer plein plein d'aspects, mais ça tombe très très bien que vous soyez venu à la librairie le jour, la journée de la femme. C'était très approprié, surtout à une période où on est en quelque sorte à un moment un peu historique, justement, des rapports hommes-femmes et de la question du féminin et évidemment de la question du masculin. Enfin, on y reviendra sans doute. Mais je voulais aussi vous entendre sur un point qui est très important pour un libraire, par exemple, pour quelqu'un du livre en tout cas, en général, de cette légende de Tristan et Iseut, qui est probablement, avec les légendes du Graal, effectivement, la matière même du roman. C'est-à-dire que ça, c'est la naissance du roman. Et je voulais vous demander si vous partagez déjà cet avis sur la question de la naissance du roman par rapport aux contes ou aux légendes orales, etc. C'est-à-dire que ça se structure différemment dans un livre pour faire roman. Et je voulais aussi vous demander si vous retrouviez dans la littérature contemporaine, là aussi, quelques-uns des éléments majeurs de la légende de Tristan et Iseut. Parce qu'il me semble que on parle toujours de roman, le roman et la romance, ce sont des termes bien évidemment très liés. Et aujourd'hui, la romance dans la littérature reste quelque chose d'extrêmement important. Pas seulement Arlequin, hein, la romance en général.
Leonardo Incapié.
Oui, disons que il y a différentes théories vis-à-vis de la naissance du roman, en fait. Il y a la plus connue, c'est celle qui voit en quelque sorte la naissance du roman au Moyen Âge, avec ce texte qui côtoie tous Chrétien de Troyes et cette époque et ces moments-là, mais et elle n'est pas la seule, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a d'autres critiques et d'autres auteurs qui pensent qu'on peut appeler certains récits, par exemple de l'Antiquité, certains récits romains et grecs, comme des romans. Et on appelle les romans grecs et latins. Donc il y a toute
Oui,
disons,
l'Odyssée,
une
évidemment.
discussion. Exactement.
Gilgamesh.
Et, par exemple, déjà, les Landor ont. Où il y a des titres qui m'échappent en ce moment, mais en tout cas, il y a des différents avis vis-à-vis de cette naissance du roman. Ce que je trouve très intéressant, disons, d'un point de vue de cette naissance du roman, en tout cas comme nous la concevons et que nous pensons c'est-à-dire cette naissance a eu lieu au Moyen Âge, c'est intéressant qu'elle ait lieu avec Tristan et Iseut, par exemple, ou en tout cas des textes qui sont autour de Tristan et Iseut. Parce que finalement, la deuxième partie de votre question, si on retrouve dans la littérature contemporaine encore ce même sujet ou ce même thème, c'est quelque chose qui m'a poussé à faire aussi cette étude. C'est-à-dire que avec cette naissance du roman, comme vous le dites, est né aussi un mythe de l'amour. Et c'est ce point qui était à la base disons, de mon questionnement. Ce mythe de l'amour, je considère qu'il nous poursuit toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas que la littérature contemporaine. On le voit dans le cinéma, on le voit à la télé, dans les séries, dans le feuilleton. C'est-à-dire que quand on pense que Tristan Iseut, que la légende de Tristan Iseut a été à la base de l'apparition d'un mythe à propos de l'amour, on s'est dit que ça dure jusqu'à nos jours et que son importance, c'est que ça nous touche comme ça pouvait en quelque sorte toucher un public médiéval. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, je ne voudrais pas non plus penser qu'un public médiéval pouvait ressentir ce que nous ressentons quand quelqu'un écoute l'opéra de Wagner. C'est pas de Tristan Isolde, à propos de Tristan Isolde. Mais à la base, ce que ce mythe véhicule reste. Dire que l'endroit où ça peut nous toucher, l'endroit où ça peut nous interpeller est le même. C'était un tout petit peu mon hypothèse de départ aussi. Du coup, il y a un très beau travail à propos de ça de Denis de Rougemont qui s'appelle « L'amour et l'Occident » où il essaye de montrer comment le mythe des Tristan Isolde, ce qu'il appelle le mythe de l'amour-passion, a influencé la littérature des couples amoureux jusqu'au XXe siècle. Je vous le recommande vraiment parce que il essaye de montrer ça d'une manière très très détaillée finalement.
Alors Leonardo Incapié, vous consacrez une grande partie de votre livre à une passionnante enquête sur les origines de cette légende qui remonte, qui ont des ramifications dans de nombreuses civilisations. Qu'est-ce que vous nous en dire principalement? C'est une légende celte ou ça va encore plus loin? Parce que vous allez très très loin, hein. On l'abordera dans la prochaine émission. Oui. Mais,
De nouveau, beaucoup de discussions, beaucoup de positions vis-à-vis de ça. Donc il y a eu des théories, il y a eu des critiques qui pensaient que c'était véritablement la mythologie celte qui était au centre de l'apparition de cette légende. Il y a eu des critiques qui se sont dit que finalement... il y avait plutôt des influences persanes, parce qu'il y a une légende persane médiévale qui est apparue un siècle avant Tristan et Iseute, qui s'appelle d'ailleurs Vizramin, un très beau texte. Et donc, au 19e siècle, il y a eu des critiques allemands qui ont pensé que c'était ça, la naissance de Tristan et Iseute, c'était plutôt un modèle persan. Par exemple, parmi d'autres. Moi, je considère que finalement, la légende de Tristan et Iseut dans c'est très généraux et bien celtique. C'est-à-dire que le personnage d'Iseut s'est cristallisé au Moyen-Âge grâce à un héritage celtique dans un premier moment, et beaucoup d'autres, comme vous le dites et que je développe dans mon livre.
Alors, parmi ces déesses, peut-être une des plus connues, c'est Brigitte, la déesse qui est originaire d'Irlande.
Tout à fait. C'est-à-dire, j'essaye de montrer que finalement, le personnage d'Iseut, le personnage littéraire, est un avatar des déesses, des grandes déesses que malheureusement, on a oubliées d'une manière, de mon point de vue, très dramatique. Et donc, entre autres, Brigitte, la déesse celtique, qui apparaissait représentée par trois, disons, en triade. En fait, on appelait les sœurs Brigitte, qui apparaissaient en triade. Et je pense que ce personnage-là, de cette mythologie, a eu une grande influence dans l'apparition du personnage d'Iseut au niveau littéraire.
On comprend bien, et nous le verrons dans la prochaine émission, car vous reviendrez, Leonardo Incapié. Le temps passe très vite en votre compagnie. On voit bien que, déjà, votre ouvrage tend à démontrer qu'il y a eu, à une époque, en tout cas, une religion qui était plus tournée vers les déesses, que ce soit en Méditerranée, que ce soit dans le monde celte, et que c'est plus une religion patriarcale qui a pris le dessus, et qu'à partir de là, il nous manque quelque chose.
C'était mon hypothèse de base, tout à fait, et que le personnage d'Iseut, en quelque sorte, était un essai au Moyen-Âge de rééquilibrer les forces symboliques de notre âme.
De manière donc totalement inconsciente ?
Disons que tout ce qui se passe dans l'inconscient collectif tel qu'il a été conçu par Jung, ce sont des choses qui dépassent notre conscience, bien évidemment. C'est l'inconscient et c'est l'inconscient collectif. Et du coup, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous-mêmes et qui se cristallise par des productions, que ce soit onirique, que ce soit littéraire, que ce soit culturel, comme la religion ou l'art. Et donc, inconsciente, parce que sa base, c'est l'inconscient collectif, je dirais.
Dominique Michel, je vous laisse le mot de la fin.
Ben je pense que peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est sûrement quelque chose qui est tout à fait fondamental, je pense, dans la pensée de Leonardo Incapier, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelque chose autour de ce mythe, mais en même temps de voir quelle résonance ça a au fond dans notre monde, du côté, en tout cas, de la place du masculin et du féminin. Et Olivier Lostis parlait tout à l'heure de la question du féminin à notre époque. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui est à la fois extrêmement douloureux, comme une sorte de blessure extrêmement ancienne que chacun ressent avec une acuité peut-être plus importante. On sait très bien, moi je le sais de mon point de vue de médecin généraliste ou de psy, que la place du féminin chez les hommes, par exemple, prend aussi de plus en plus d'importance dans ces trois personnages, que ce soit du côté du maternel, par exemple, que du côté du conjoint, de la compagne, et puis on reverra après aussi dans le processus de transformation. Donc je pense que c'est bien important de se dire que là, derrière une sorte d'explicitation à partir d'une lecture archétypique de ce mythe, il y a chez Leonardo une idée extrêmement profonde qui est que derrière, il y a quelque chose autour de la place du féminin dans notre monde contemporain.
Merci à vous tous, Leonardo Incapier, Monique, Michel, Olivier et Dominique. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours parce que nous allons essayer justement de rentrer dans le vif du sujet de ce livre. Le sujet, c'est ce livre, Iseut, la vie, la mort, le renouvellement, paru tout récemment aux éditions La Fontaine de Pierre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. Thank you.